essayer d'aller. Bonsoir, donc c'est bien la causerie, on est un tout petit peu en retard, désolé, on a eu un petit problème, comme on vous le disait, un petit problème de voiture et un petit problème de fichier, ce qui fait qu'on est un petit peu en retard. Mais on va vous proposer ce soir ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'interview de CR. Si vous voulez réagir à cette interview, c'est lacauseriecanu@gmail.com ou alors vous pouvez aller sur le blog à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Voilà, allez, c'est parti.
Sabah olsun, Eh bien oui, on se retrouve autour d'un petit micro poilu. Et parce que c'est un petit entretien qu'on vous propose ce soir avec différents membres de la causerie. Il y a Clara, il y a Fab, il y a Emma et moi-même Jean-Yves. Et on est ce soir avec CR qui va se présenter un petit peu. Moi, je te laisse te présenter.
Ok, très bien. Bonsoir avant tout et merci de m'accorder un petit instant à votre radio pour pouvoir parler un peu de mon vécu. Donc, je m'appelle CR, j'ai 32 ans. Alors au niveau de mon vécu, oui, je suis née en France, je suis d'origine turque et je suis d'une famille de 5 enfants en fait, on est toutes des filles, hein. Voilà, et je voulais vous parler un peu de mon enfance et des projets qui sont venus par la suite. Voilà, donc moi j'étais la quatrième d'une fratrie de 5 filles, sachant que je dis juste au passage que mes parents voulaient absolument avoir un garçon, donc c'est un peu pour ça qu'ils ont enchaîné. Donc on nous l'a un petit peu reproché aussi en disant oui, c'est trop dur d'avoir des enfants, c'est trop compliqué, ça me casse la tête... sachant qu'on n'avait rien demandé, hein, bien évidemment. Voilà, et j'étais un peu l'enfant modèle, on va dire, puisque un père très autoritaire, et puis un peu dans les extrêmes, donc très très reconnaissant quand tout allait bien, et puis très mécontent quand voilà, on le contrait, en fait. Hein, c'est un peu l'idée. Et donc moi, oui, un peu dans le conformiste, travaille bien à l'école, bien sûr, sort pas avec les copains, les copines, pas vraiment d'adolescence en termes de crise d'ado. Ça, j'ai pas vraiment vécu. Je pense que je me suis pas autorisée parce que je pense que j'avais pas le choix. Et une mère un peu effacée, un peu beaucoup effacée, en fait, très soumise. Qui avait pas forcément le droit de dire ce qu'elle pensait, le droit de sortir, qui travaillait pas forcément, qui était bonne en fait à s'occuper des enfants, donc une mère inexistante, voilà, et qui avait plutôt tendance à exister grâce à la maladie. Je suis malade, donc je suis. Donc c'était tout le temps, bah, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien. Elle allait jamais bien en fait. Et un père qui écrasait tout ce petit monde avec ce qu'il pensait et qui pouvait, voilà, qui un peu un dictateur en gros, voilà. Et donc on peut dire ça parce que c'est un mini pays en fait, hein, chez moi, un mini pays entre ceux qui écrasent et ceux qui se font écraser et ceux qui finalement se complaient à être écrasés et qui font rien pour se battre. Finalement, donc j'en voulais beaucoup à ma mère de me dire mais tu fais rien putain pour contrer ce type là parce que sinon il y a peut-être des choses qui changeraient. Donc grandi un peu dans cette ambiance là, donc mon quatrième enfant fait chier, une fille encore, des choses à acheter, oui les enfants ont des besoins, bah merde, je pensais qu'elle pouvait mettre les enfants de sa grande sœur, bah oui non elle a des besoins aussi, bah oui. Et puis donc aussi un esprit un peu, bah, la fille elle a rien de droit de faire quoi. Elle a pas le droit de, bah, d'avoir un petit copain, hein, parce qu'on est musulman. Elle a pas le droit d'avoir des sorties. Elle a pas le droit d'aller en Angleterre parce que l'école va en Angleterre, parce que c'est pas bien, parce qu'on n'a pas le contrôle. On n'a pas le droit de l'envoyer en Allemagne parce que bah non c'est pareil, hein, il faut pas qu'elle y aille, on sait jamais, hein, si elle couche avec quelqu'un et puis bah si elle perd sa virginité du coup elle aura plus de valeur. Un des trucs par exemple qu'elle expliquait ma mère, c'était quand on n'a plus notre virginité, bah, notre mari il nous tire par les cheveux dans le village et il nous traîne sur tout le village pour qu'on voit la bêtise qu'on a faite. D'accord. Ok.
Ça, c'est ce qu'on te disait enfant, pour t'expliquer pourquoi on voulait pas, voilà, que tu partes.
Pourquoi il fallait surtout pas coucher avec un garçon. Ouais. Que c'était très très grave, qu'on est très très mal vu, et qu'on n'a plus de valeur. Donc c'est avec cette idée-là que j'ai grandi, quand même. Sachant que je voyais aussi, j'ai quand même grandi en France, je suis née en France, donc j'ai quand même vu d'autres choses aussi, qu'on pouvait vivre différemment. Hein? Parce qu'il y a ce qu'on t'explique, son vécu à elle, Et il y a moi, ce que je vois aussi quand même à côté, mais bon, bien sûr, c'est tes parents, hein, donc bien sûr, il faut les croire. Et je vois pas comment tu peux faire autrement quand t'es petit, que t'es pas forcément affirmé. Donc il y a des choses sur lesquelles t'es un peu frustré parce que bah voilà, tes copains, tes copines, ils vont au bar, bah tu vas pas au bar, ils vont en boîte, bah tu vas pas en boîte. Un des exemples aussi où mes copines étaient allées au McDo, donc moi je les ai rejoints, hein, je suis allée au McDo. Sans vouloir citer de nom, je sais pas si j'ai le droit.
Aucun droit.
Très bien. Et du coup, en fait, mon père a vu ça sur mon relevé de compte et il m'a dit mais c'est un endroit pour que les garçons et les filles se rejoignent. Non, mais en fait, c'est un resto. Ah, mais non, mais c'est pour que les garçons et les filles se rejoignent. Et, en gros, ils couchent ensemble, ils font n'importe quoi, quoi. Voilà.
Dans le McDo.
Donc, il m'a. Ouais, dans le McDo. Et donc, il m'a confisqué ma carte bleue. Mais genre, j'avais 17 ou 18 ans. Hein. Il m'a confisqué ma carte bleue. Bien sûr, après, moi, j'ai déclaré qu'elle avait été perdue. Donc, je l'ai fait renvoyer chez ma sœur. Enfin, bref. Ça pousse à faire des magouilles, quoi, en gros. Hein. C'est... voilà. Au final, on veut faire un truc. On le fait, tout simplement. Et puis donc, parlant aussi par rapport à mes grandes sœurs, donc forcément, ici, les garçons qui sont turcs et qui sont en France, bien sûr, vu qu'ils sont en France, bah, ils sont tous... ils ont beaucoup trop de tentations, et ils font n'importe quoi, ils couchent avec tout le monde, donc bah, il faut aller chercher les garçons en Turquie. Hein, donc en fait, quand on partait en vacances, ils mariaient mes sœurs, comme ça, le temps des vacances. Voilà, on les mariait. Bon, il y avait des gens qui venaient demander mes sœurs et puis bah ils les trouvaient bien, donc hop, puis mariage quoi. Donc j'en ai une comme ça qui s'est mariée à 17 ans, une qui s'est mariée comme ça à 16 ans, une qui s'est mariée, elle avait 25 ans, mais pareil, enfin tous des mariages arrangés quoi. Honnêtement, et en fait, comment dire, tu vas dire, mais est-ce qu'on pourrait, on pourrait dire non quand on arrive devant le maire, on pourrait dire non. Et en fait, non, on n'arrive pas à le dire. La pression familiale est tellement forte, et on te dit limite, on te fait ressentir et on te fait croire bien sûr que le monde va s'arrêter si tu contredis tes parents, et que si jamais tu dis non, c'est parce que t'aimes quelqu'un d'autre et que c'est pas bien. Forcément, avec toute cette pression-là, ben, tu peux pas dire non. Et avec un père autoritaire comme ça, ben, tu peux pas dire non. Donc tu dis oui, mais au final, tu veux pas.
Je te coupe un peu, excuse-moi, mais du coup, si on peut revenir un petit peu sur ton enfance, parce que tu dis qu'il y avait une forte pression familiale, c'est que depuis l'enfance, tu sentais que on... Ouais, comme tu disais, on essayait de t'enfermer dans un schéma, de te conformer à un schéma, finalement, ce qui ne t'allait pas, en fait, au final.
Ce qui ne m'allait pas, plus ou moins, parce qu'en fait, c'était des petites choses, on va dire. Voilà, bon, sortir avec les copines, bon. T'es habitué aussi à vivre comme ça, donc quelque part, au final, tu te complais à ça. Sauf qu'il y a des choses que je voyais, ou par exemple, mes sœurs qui pleuraient en allant au mariage, ou qui n'arrivaient pas à dire à mes parents qu'elle voulait pas. Je comprenais pas, en fait. Je disais, il y a quelque chose qui va pas. Après, bah, moi, j'avais 16 ans, 17 ans, et j'étais pas encore en âge de dire, mais merde, quoi, regardez, votre fille, elle est en train de pleurer, il y a quelque chose qui va pas. Et limite, ça fait partie des choses que j'aurais, si je pouvais revenir en arrière, que j'aurais fait. Et après, bah, plus tu grandis, plus il y a des projets auxquels tu te confrontes et que tu dis, mais non. Ça, je vais me battre, parce que ça, c'est pas un petit truc. C'est pas un petit voyage en Angleterre de 2 jours, c'est pas un petit voyage en Allemagne de 1 jour, c'est pas genre juste je sors au McDo d'un soir. Il y a des choses sur lesquelles tu peux passer, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas passer. Il y a des choses que je pouvais voir aussi, le fait d'être très autoritaire, d'avoir une femme soumise, le fait qu'elle fasse tout à la maison, que mon père participe à rien du tout. Ça, c'est des choses aussi que je constatais. Mais qui me révoltait pas forcément. T'es pas encore affirmé, t'as pas la force de pouvoir dire non. T'observes. Jusqu'au jour où tu dis non. Ça, c'est pas possible. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré mon copain, qui est d'origine kurde. Alors, le grand drame, hein, bien évidemment, parce que je suis d'origine turque. Et que les Kurdes n'aiment pas du tout les Turcs, et les Turcs n'aiment pas du tout les Kurdes. Sauf que moi, quand je l'ai rencontré, j'ai vu un homme. Un homme avec lequel j'ai pu discuter, un homme qui était ouvert au dialogue, qui pouvait parler avec moi et qui m'écoutait. J'ai vu ça, en fait. J'ai vu quelqu'un qui me posait des questions sur mon ressenti, sur ce que... Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait, qu'on n'avait pas fait avec moi. Parce qu'on ne me l'a jamais demandé, ça, mon ressenti. Et également avec ma mère, parce que vous allez me dire, ah, souvent les mamans sont très affectives, elles écoutent, machin. Mais ma mère était tellement mal d'être avec mon père, avec lequel elle s'est mariée également de manière arrangée, que quand nous-mêmes on n'est pas bien, comment on peut être bien avec les autres? Comment on peut s'occuper de nos enfants alors que nous-mêmes on est dans un mal-être? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, je n'en veux pas, parce qu'elle, je pense qu'elle aussi, elle n'était pas bien. Elle n'a rien fait, effectivement, mais je pense qu'elle n'était pas bien, quelque part. Et donc, j'ai rencontré mon copain, en lequel j'ai vu un homme qui... Avant tout un copain, vraiment un ami. Et donc, on a fait connaissance. Bien évidemment, mes parents n'étaient pas au courant. Tout ça en cachette. Et à la base, en fait, il était sur Lyon, de passage, dans une maison culturelle kurde, dans laquelle j'apprenais la guitare turque. Donc, un jour, le cours a été annulé et il m'a proposé d'aller boire un verre. Donc, on a bu un verre pendant le cours, donc pas d'excuses de « je suis en retard, je peux pas ». Donc, le cours, il devait commencer à 7h, je crois, et à 9h, en fait, il se terminait, le cours, sauf qu'on s'est posé à 7h, et à 9h, je dis, mais ça fait 2h qu'on discute, en fait. Donc, qu'un échange que j'oublierai pas, pas de la drague, pas de « oui, t'es belle, oui, t'es ci, t'es ça », rien, de la discussion. Vraiment, un échange des questions qu'on m'a jamais posées. Mais tu vis en France, t'es née en France, alors t'as été élevée par une famille turque. Quelles étaient les difficultés pour toi? Comment tu l'as ressenti? Est-ce que pour toi c'est un avantage, un inconvénient? Des choses comme ça. Je me suis dit, mais lui, il a l'écoute. C'est lui qu'il faut. Et en fait, sur le coup, on a commencé à parler de plus en plus, à s'échanger de plus en plus de messages, à s'appeler. Et en fait, lui, il est retourné en Italie parce qu'à la base, il habitait en Italie. Réfugié politique en Italie. Réfugié politique parce que les Kurdes ne sont absolument pas reconnus en Turquie et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes droits et que, ils n'existent pas d'une certaine manière, en fait. Hein, c'est les... ils n'existent pas et du coup forcément quand ils réclament des droits, c'est des terroristes. Voilà, c'est un peu stigmatisé, mais c'est sincèrement ça. Et donc réfugié politique, il pouvait travailler, tout ça. Et au bout de 2 ans, je dis à mon copain, je lui dis je vais pas dire au bout de 2 ans, je vais peut-être raconter entre temps ce qui s'est passé. Donc compliqué de se voir. Lui, il est en Italie, moi je suis à Lyon, et à l'époque, j'étais étudiante infirmière. Et je dis, mais il faut qu'on se voit, on ne peut pas rester comme ça, on s'aimait très très fort, moi ça se passait très bien. Et donc, je lui dis, je vais dire à mes parents que je fais des remplacements d'aide-soignante dans une maison de retraite. Mais cette idée, je l'ai eue parce qu'il y avait des personnes qui réellement faisaient des remplacements d'aide-soignante dans ma classe. Je dis, tiens, pourquoi pas? Donc j'ai dit à mes parents, oui, je vais faire des remplacements, tout ça, d'aide-soignante, donc ok. Et je partais tout le week-end en Italie, alors qu'ils n'étaient pas au courant. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent.
Yeah.
Enfin, ce que je trouve drôle, enfin, ce que je trouve drôle, non, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est toujours cette notion de toujours, en fait, enfreindre les règles, les normes qu'on nous a inculquées, sur lesquelles on nous a jamais posé de questions, sur lesquelles on nous a jamais dit t'es d'accord ou t'es pas d'accord. En fait, non, c'est tu les suis. Et que c'est en enfreignant ces lois, ces règles-là, on va dire, qui sont du domaine de l'intime, qu'on se sent vivre, en fait. Et je trouve que c'est vraiment très parlant, en fait.
Mais voilà.
Non, mais fais non.
Ben, complètement, parce qu'en fait, si en fait, on se sent pas vivre à partir du moment où on obéit à la façon de vivre de quelqu'un d'autre. Sauf que quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre, et c'est pas toi. Et c'est à partir du moment où vraiment tu te bats pour quelque chose dont tu veux vraiment, que tu te sens vivre. Moi, j'ai flippé quand je suis partie. J'ai pris ce putain de train. J'ai flippé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu vas en Italie. T'as jamais eu de relation. T'as jamais eu de copain. C'était mon premier copain. Hein, j'avais 19 ans. Bah, parce que j'avais peur avant, donc c'était pas possible. Tu pars dans un autre pays. T'es capable de faire ça? Bah ouais, je suis capable. Bah ouais, je suis capable. Et s'il le sait? Mais c'est pas grave. Au final, en fait, quelque part, il te faut... Peut-être que je l'aurais jamais fait si je l'aurais pas rencontré, si j'aurais pas ressenti ces émotions-là pour y aller. Parce que quelque part, il te faut vraiment le truc qui te fait bondir, le truc qui te fait foncer droit devant. Et je l'ai eu, quelque part. Et il me faut, malgré la grosse peur que j'avais vis-à-vis de mon père, très autoritaire, mais il va me tuer... Je l'ai fait quand même. Donc tu penses quelque part que c'est grave. Oui, c'est grave. Mais que c'est pas la fin du monde. Voilà. C'est grave, mais c'est pas la fin du monde. Et moi, je pense que t'as aucune... Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit... je suis née sans le demander... Je vais mourir sans le vouloir, alors laissez-moi vivre à ma guise. Mmh. Et c'est ça que j'ai ressenti quand je suis partie. On s'est vu en Italie. J'arrive en Italie, mais une anecdote, j'ai vraiment envie de vous la raconter, celle-là. Première fois que je prends le train. Première fois que je pars dans un autre pays que la Turquie. Première fois que je vais voir quelqu'un et on va dormir à l'hôtel. Super ça aussi, hein. Première fois que t'es avec ton mec, tu vas à l'hôtel. C'est un peu dégradant, mais c'est pas grave, tu vas pas dormir dehors. Tu vas pas aller voir des copains, des copines, ta tante, tu peux pas. C'est pas possible, donc t'as pas de choix, tu les crées les choix. Et du coup, j'arrive à Turin, et lui il arrive à Turin. Il me dit, t'es où? Bah je dis, bah à Turin. Et toi t'es où? Bah je suis à Turin. Et t'es à la gare. Oui, je suis à la gare. Mais où à la gare? Bah, à la gare. À la voie numéro 3. J'attends. Personne à la voie numéro 3. Et toi, t'es où? Bah, je suis à la voie numéro 3, mais t'es pas là. D'accord. Entre-temps, plus de batterie. Impossible de joindre. Et je dis, bon, bah, c'est bon, en fait, je suis une grosse conne. J'aurais jamais dû courir derrière un mec. Tu parles. Je suis arrivée jusque là. Il se rend pas compte les risques que j'ai pris. Il m'a dit en plus que pour le retour, c'est lui qui me paierait le billet de train. J'ai que 30 euros. Je sais pas ce que je vais faire. Il est 11h du soir. J'ai commencé à regretter. Et en fait, il y a deux gares à Turin. Il y a Turin Sud et Turin Nord. Et moi, j'étais au nord, il était au sud. Il est allé voir un taxi en disant « mais je comprends pas, pourquoi, machin ?» Il lui a dit « mais il y a deux gares à Turin. » « Ah, ben, elle est peut-être à l'autre. » Il est arrivé. Et là, les retrouvailles, j'explique pas. Il y a eu plein d'allers-retours comme ça où on s'est vu... On s'est vu à Turin. En fait, il était à Rome. Moi, j'étais à Lyon. Et on se regroupait au milieu, à Turin, pour qu'il fasse autant de trajets que moi. Et une des anecdotes aussi qu'on a eues en Italie, bien évidemment, c'était à Milan. À Milan, on est posé devant la gare. Milan Centrale, ça s'appelle Milano Centrale. OK, avec l'accent de merde, mais c'est pas grave. Je pose mon sac et à l'époque, mon copain, il trouvait pas de travail. Donc, j'avais un peu d'argent et je lui dis, bah, tiens, je te donne ce que j'ai, tu sais, pour ces jours-ci. Il était pas bien du tout. Hein. Et je sors mon portefeuille, je lui donne 30 ou 40 euros, je sais plus à l'époque ce que c'était. Je pose mon sac à côté et là, on s'enlace, on se dit au revoir parce qu'on va pas se voir peut-être dans deux mois, tout ça. Et là, bim, mon sac. Chut. Volé avec mon billet de train, avec tous mes papiers. Et là, la grosse panique. Mon train, il allait de Milan avec une... Enfin, il allait directement à Lyon. Je ne sais plus s'il y avait une escale. Enfin, une escale, un arrêt ou un changement, je ne sais plus. Donc, plus d'argent, plus de papiers et plus de billets de train. Et là, mon mari, il me dit, bon, bah, les 30 euros que tu m'as donné, je vais te les rendre. Je dis, merci, t'es vraiment cool. On est allé acheter un billet qui allait jusqu'à Genève, parce qu'il n'y avait pas d'autre train, en fait. Le train, je l'avais raté, c'était plus possible. J'ai pris un autre billet de train qui passait par Genève et, en fait, qui s'arrêtait après, je ne sais pas où. Mais bon, moi, j'ai continué, j'étais en fraude totale. Donc là, en pleurs, en mode panique... Plus de club, plus rien, plus de batterie. En mode panique, hyper en retard à la maison. Je devais rentrer genre à 20h, je suis rentrée à 23h. Un mec que j'ai rencontré dans le train, que j'oublierai jamais, qui m'a donné à manger, qui m'a donné son téléphone pour que je téléphone à ma sœur pour qu'elle invente une magouille, pour qu'elle me récupère à la gare, pour que je rentre chez moi. Parce que forcément, plus de métro, plus de... tram, plus de tramway ou quoi que ce soit. Et je suis rentrée chez moi en mode panique. Et ma mère, les yeux tout rouges, qu'est-ce qui t'arrive, tout ça. Et là, je lui dis, bah, dans ma maison de retraite, il y a une personne qui est décédée, quoi. J'ai dû simuler ça, quoi. Mon père dormait, heureusement. Mais la peur de ma vie, là, vraiment la peur de ma vie. Ma sœur, à l'époque, était complice. Ma sœur qui a été, quelque part, mariée de force et qui était pas du tout bien avec son mari et qui était en mode « je le trompe, je vais divorcer, ça fait 14 ans que je suis mariée avec lui, mais maintenant... » Elle lui reprochait rien, en fait. Mais elle l'avait juste pas choisi. Donc, elle arrivait pas à l'aimer. Je la comprenais entièrement et du coup, elle m'aidait à... Elle m'aidait. Elle m'aidait parce qu'elle voyait que j'avais rencontré... l'âme-sœur. Et voilà, donc jusqu'au jour où j'ai dit à mon copain, bah, peut-être qu'il faut que tu t'installes en France, parce que là, déjà, t'es kurde. T'as pas de boulot. Et en plus, t'habites en Italie. Donc ça va être un petit problème. Il faut au moins que tu t'installes ici, quoi, histoire que de dire que, bah voilà, t'es ici, t'es en France, tu peux venir me demander la main, hein. Donc, lui, il pouvait rien faire. En fait, en tant que réfugié politique, il pouvait pas travailler en France. Il pouvait pas. Il pouvait circuler librement, hein, pas de problème, mais pas travailler et pas louer de trucs à son nom. Donc, en cachette, toujours, bien évidemment, j'ai loué un foyer social. Pareil, en mentant à nouveau, en disant que ça allait pas avec mes parents, que machin, que truc. Et j'ai loué une chambre de foyer social, en fait, pour qu'ils puissent s'installer.
Et dans cette période-là, en fait, on est d'accord que pour ton père, celui que tu appelais le dictateur de la famille, lui, il a dans l'esprit de te marier un jour en Turquie, hein, de préférence, et au cours d'une de ces sorties de vacances que tu appréciais tant.
Complètement. Complètement. Sachant que j'étais encore en train de faire mes études, donc lui, bien sûr, il attendait que mes études se terminent. Au passage, j'étais la seule à étudier dans ma famille, en fait. Enfin, étudier, c'était pas non plus des études. Mais voilà, qui voulait aller plus loin que le lycée, quoi, du moins. De toute façon, il lui a pas laissé le choix, parce que marié à 16 ans, 17 ans, 18 ans, je veux dire, c'était pas possible de toute façon. Donc oui, c'était son projet, ça a toujours été son projet pour tout le monde, ma mère aussi. Ma mère aussi qui, très drôle, critiquait son père en disant mon père a voulu me marier avant mon mari, mon père a voulu me marier avec quelqu'un d'aveugle parce qu'il était riche. Et quand il est venu me demander la main, j'ai renversé du yaourt ou du je sais pas quoi dans ses chaussures pour pas qu'il revienne. Mais ça, c'est des histoires d'avant, quoi, j'ai envie de dire. Donc, elle avait compris que c'était pas bien, mais juste parce qu'en fait, il était aveugle. Pas du fait que c'était elle qui avait le droit de choisir, qui avait... Mais elle s'est quand même rebellée. Et c'était dans les années 60, 70. Donc, et en fait, ça, je l'ai analysé, parce que je me suis dit, mais comment tu peux reproduire un truc dont toi, tu n'as pas voulu ? Et moi, je pars du principe qu'en fait, soit tu le reproduis parce que tu ne sais pas faire autrement, mais tu sais que c'est pas bien, mais tu ne sais pas faire autrement. Tout ce qu'on t'a expliqué à côté, c'est pas bien. Sortir avec un garçon, c'est pas bien. Traîner dans la rue avec un garçon, c'est pas bien. Elle a jamais connu un truc différent que ce modèle-là, donc elle le reproduit quand même, même si quelque part elle voudrait peut-être faire autrement. Donc peut-être que c'est une excuse, peut-être que, je sais pas, psychologiquement, c'est ce qu'on fait d'emblée, automatiquement, sans réfléchir. J'en sais rien. Soit on fait exactement le contraire, on se dit « Ah non, mais moi, je veux pas ça. » Soit on le reproduit parce qu'on sait pas faire différemment. C'est ce que je me dis. J'ai peut-être faux. Et il est venu... J'ai dit à mes parents, bien sûr, que ça y est, j'avais rencontré quelqu'un, que ça a été très 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 dur, que ça faisait 2 ans que j'étais avec lui. La claque. Pas pour moi, pour eux. La claque. Ma mère s'est décomposée. Donc j'ai dit bien sûr qu'il était kurde, d'où il était, machin. Ton père, il va te tuer. Ok. Ça faisait déjà plein de fois que je l'avais entendu, hein. Ton père, il va te tuer. Ton père, il va te tuer, il va t'enlever de l'école. Elle savait que c'était mon point sensible. J'avais vraiment envie de faire ces études-là. J'avais vraiment besoin de faire infirmière, de m'occuper des autres, de donner de moi pour les autres. Ah oui, il va te virer de l'école, il va plus payer tes études, il va faire ci, il va faire donc des menaces. Ma mère a toujours fonctionné à travers mon père, en fait, à travers les paroles de mon père. Elle n'avait pas de pensée à elle. Ton père va dire ça. Ton père va te tuer. Ton père, mais tue-moi toi, pourquoi c'est mon père qui me tue? Tu peux me dire quelque chose là maintenant, tout de suite? Non, c'est mon père qui va me tuer. Très bien. Je lui ai dit, mais de toute façon, il va venir me demander la main. Ça peut pas se passer autrement, je l'aime, machin. Tant bien que mal, ma mère en parle à mon père, mais tout en lui disant, moi, ma fille, jamais je la donnerai à un kurde. Parce que tu donnes, tu sais, quand ta fille, elle se marie, tu donnes. C'est un paquet cadeau. Tiens, je te le donne. Voilà, je te le donne. Non, elle fait sa vie, ta fille, en fait. Hein. Tu donnes rien du tout, tu prends rien du tout. Elle fait sa vie. Bon, ça, c'est une autre histoire. J'entends bien sûr dans le salon qu'elle est en train de dire oh, ben, jamais je donnerai ma fille à un cure, tu te rends compte de ce que vont penser les autres, mais c'est la fin du monde, mais moi c'est bon, je pourrai plus jamais regarder les autres en face. Non, mais attends, j'avais commis le truc de la vie, quoi. Et donc, mon père, il me dit rien. Grand silence. Grand silence. Encore pire que s'il m'avait insulté. Et en fait, il y a... Et mon copain vient me demander la main. Avec une famille d'ici. N'importe laquelle. En fait, parce qu'il n'a pas de famille. Ils sont tous en Turquie. Et donc, il arrive avec les fleurs hein, en plein milieu dans le salon. Et là, personne ne prend ses fleurs. Normalement, c'est la mère qui prend... Hein. Donc il poirote jusqu'au moment où il les pose en fait sur la table parce que bon il a pas l'air con hein, comme ça. Mais moi je l'ai trouvé con hein, franchement comme ça. J'ai trouvé super con, putain t'as pas l'air con. Hein. Bref il se pose, ambiance super tendue. Ouais t'as pas tes papiers, tu veux te marier avec ma fille pour tes papiers c'est ça? Non, pas tout à fait. En fait, j'ai mes papiers. Non, mais t'as pas tes papiers. T'es kurde, t'es terroriste. De toute façon, t'as pas tes papiers. Tu veux te marier avec ma fille pour mes papiers. Non, mais si tu veux, je les sors. Non, mais c'est bon. De toute façon, t'as pas de papiers. Puis t'es kurde, t'es terroriste. D'accord. Donc, aucune discussion possible. Humiliation possible. Au point qu'en fait, il est parti d'une manière. Voilà, il est parti. Il a pas dit au revoir, quoi. Moi, en pleurs, bien sûr, dans une autre pièce, sachant que toutes mes sœurs, en fait, étaient venues pour me soutenir. Parce que je parle aussi d'une autre sœur qui voulait se marier avec quelqu'un, mais elle n'a jamais osé le dire à mes parents. Et elle m'a dit ce jour-là, j'aurais aimé pouvoir faire au moins ce que tu as fait aujourd'hui, qu'ils viennent à la maison te demander la main, même si c'est un échec. Donc, ok, toutes mes sœurs étaient venues là. Il part, et là... Grand changement de situation. Mon père, limite, se roule par terre. Ma mère, elle pousse des youyou. Non, pas des youyou, ça c'est pour faire la fête. Enfin, voilà. Oh là là, ma mère. Qu'est-ce qui nous arrive? Tu te rends compte? Oh là là, ma fille. Elle aime un kurde. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, mon père? Blême. Blême. Oh, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le... Le truc, mais le plus insensé du monde, quoi. Aimer quelqu'un.
j'avais une question en fait, parce que quand tu parles justement de tes parents ou de leur réaction, c'est toujours qu'est-ce que vont dire les autres en fait. Alors en fait, moi ce qui me vient en question un peu, c'est ce qu'il disait en fait par rapport au fait qu'il était kurde et tout ça. Est-ce que c'était ce qu'ils pensaient vraiment eux, ou est-ce que c'est le poids d'un environnement pesant, etc., et de ne pas oser sortir des rangs, on va dire, d'une pseudo-communauté où j'en sais rien, mais est-ce que c'est ça en fait, est-ce qu'ils pensaient réellement c'est ce genre de choses là raciste en fait, ou est-ce que c'était le poids de la société qui leur faisait penser ça, quoi?
Bah, c'est difficile de différencier les deux, parce que la société déteint sur toi, toi tu déteins sur la société. En fait, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'eux-mêmes n'aimaient pas les Kurdes. De toute façon, moi, quand j'entendais parler, moi j'ai grandi dans cette ambiance-là. Hein. Donc je ne sais même pas comment j'ai fait pour approcher un Kurde en fait. Parce que, oui, les Kurdes ils sont comme si, les Kurdes ils essayent de prendre la Turquie, ils vont voler la Turquie, ils vont diviser la Turquie, ils vont faire ci, ils vont faire ça. J'ai toujours grandi dans... On n'écoutait que les chaînes turques, donc que des trucs qui discriminaient les Kurdes en fait. Donc comme quoi j'arrive vachement à me libérer de tous ces préjugés et à me dire mais toi t'es juste une personne. Je sais pas si c'est bien de dire le mot juste, mais oui, t'es juste une personne. T'es juste quelqu'un, tu vas me donner du bon ou du mauvais, c'est tout. Après, on part à zéro, il n'y a pas de préjugés. Et puis, bah, tu vas marquer des bons points ou non en fonction de ce que tu vas dire. Mais sinon, le reste, je m'en tape. Bien sûr que eux, déjà, ils étaient contre. Et puis, bien sûr, t'as ceux qui pensent les autres aussi. Parce que tu vis aussi, ils vivent énormément. C'est des communautés qui sont quand même très très fermées et qui vivent beaucoup entre eux. Et alors c'est une histoire d'honneur, de machin, de trucs dont je ne sais absolument pas la question, parce que l'honneur, pour moi, c'est pas ça. Et du coup, tu te rends compte de ce que vont dire les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ben, ils vont dire, CR s'est marié avec un Kurde, ils vont rentrer chez eux et ils vont passer à autre chose. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, quoi. Et CR, mais ils vont y penser deux secondes. Ils vont la tailler, ça c'est clair. Ils vont dire que c'est une salope, déjà, parce qu'elle est avec un mec, qu'elle a choisi son mari toute seule, et qu'en plus c'est un Kurde. Mais après, ils vont s'occuper de leur fille. Donc, ouais, c'est leur pensée, mais ils vivent en fonction des autres. Et moi, j'ai envie de te dire les autres. Les autres, ils vivent, ils ont un vécu. Ils ont leur vécu à eux. Leur propre expérience, leur propre cerveau, et eux c'est eux et toi c'est toi, et tu peux pas te dire je vais vivre en fonction des autres puisque toi t'es quelqu'un à part, et les autres vont te juger en fonction de leur vécu, de leur catégorie socio-professionnelle machin truc, culturelle, nanani politique, machin truc, et toi tu vas vivre en fonction de ce que toi t'as vécu, donc tu peux pas exiger qu'on fasse les choses pour les uns et les autres. Donc c'était ça, hein, le grand drame. Et voyant que mon père était, et ma mère étaient dans cette situation-là de drame, de « oulala, ça va mal, ça va mal, ça va mal », mes sœurs ont viré de camp. Oui, CR, au final, il a raison, papa, regarde, il a même pas de travail, en plus il est kurde, et puis je suis sûre qu'il se marie avec toi pour les papiers. Je dis, mais il est réfugié politique, il a déjà ses papiers. Oui, mais c'est pas net, son histoire et machin et truc. Mais je dis, mais tu le connais pas? Tu le connais, tu l'as vu 5 minutes, vous avez passé votre temps à le juger en fait, mais vous le connaissez pas. Oui, mais papa, il va te faire un putain de mariage le jour où machin, tu te maries. D'accord. Sur le coup, moi, honnêtement, j'étais dépitée de décevoir tout ce monde-là, hein, parce qu'il y avait 10 personnes autour de moi qui me faisaient la leçon de morale. Mais tu te rends pas compte, c'est l'amour, t'es aveugle, tu te rends pas compte, t'es jeune, mais des mecs t'enverras d'autres, et puis tu verras, on te fera un putain de mariage. Imagine, là, tu fais un mariage avec lui, t'auras personne. Tout plein de trucs comme ça, mais que du chantage affectif en fait. Et donc, sur le coup, j'ai dit, bon, ben, vous voulez pas, ben, je veux pas. Honnêtement, j'ai dit ça. Et en fait, on s'est séparés pendant 15 jours. Moi, dépitée, au fond du gouffre, mais je crois que c'est les 15 jours de ma vie, je les oublierai jamais, tellement j'étais mal. Et je me disais, mais le pire, c'est que j'ai rien à lui reprocher, quoi. j'aurais un truc à lui reprocher, je dirais, bah ouais, en fait, de toute façon, il était comme ça. Bon, j'avais rien à lui reprocher. Donc, 15 jours comme ça, et puis j'essaye d'en parler un peu à ma sœur en disant, mais honnêtement, j'arrive pas à l'oublier. Je suis pas bien. J'ai perdu énormément de poids. Je peux pas vivre sans lui. J'ai rien à lui reprocher. Viens, on en parle à papa. Mais il va te tuer, papa. C'est même pas la peine. T'inquiète, tu vas l'oublier. C'est ma sœur qui était avec quelqu'un à l'époque. Elle est pas restée avec lui parce qu'il était pas de la même ville en Turquie que elle. Parce que papa voudrait pas. Alors qu'il était fou amoureux d'elle. Et vraiment, c'était vraiment de l'amour, quoi. Vraiment, je l'oublierai jamais, ce type. Vraiment, je le respecte, quoi. C'est impressionnant comme il l'aimait. Elle l'a lâché comme une grosse merde. Qui me disait ça. Donc, qui me disait, mais t'inquiète, tu l'oublieras. T'inquiète, tu l'oublieras. Et en fait, moi, j'ai fait un plan dans ma tête. Je me suis dit, en fait, je peux rien faire. Moi je me vois mal parler à mon père. De toute façon, il m'a traité de tous les noms. Pour lui, de toute façon, je suis une moins que rien. Ça sert à rien de lutter. Mais je vais quand même faire ce que j'ai envie de faire. Donc, j'avais des examens sur 3 jours. Je vais passer les examens. Et après, je prendrai mon sac et je partirai. Donc, je passe mes examens. J'étais à l'époque... J'étais en troisième année, donc dernière année d'école d'infirmière, toujours étudiante, hein, bien sûr, donc pas de boulot. Et un matin, donc j'ai pris mon sac, j'avais rien du tout avec moi, hein, bien évidemment, j'ai pas pris mes fringues. En fait, dans mon sac, j'avais que des livres parce qu'il fallait que je fasse mon mémoire de fin d'année. Et je suis partie le matin, je leur ai dit au revoir. Je savais que c'était la dernière fois que je les voyais. Je savais que c'était la dernière fois que je prenais mon petit-déj avec eux. Ils ne le savaient pas. Je suis partie à l'école. Je suis partie à l'école et mon mari est venu me rejoindre. Enfin, mon copain est venu me rejoindre à la sortie de l'école. Il n'est pas venu avec un cheval blanc, prince charmant, je sais pas quoi. Il est venu en métro. Il est venu me chercher en métro et là, on est rentré dans le foyer social et mon père m'a appelé à 8h. T'es où ? C'est mon mari qui a répondu. Elle est pas là, elle viendra pas. Elle est où ? Elle a une demi-heure pour venir. Si elle vient pas, je la plein de menaces. J'en passe les détails. Elle viendra pas. Et en fait, il s'est rien passé. Si je vous parle aujourd'hui, je suis toujours vivante. C'est qu'il s'est rien passé du tout avec les menaces, avec j'essaye de lui faire peur pour qu'elle évite de faire ci, elle évite de faire ça, mais ben, c'est juste pour faire peur et ça marche pas. Donc après, enfin, entre-temps, j'ai eu mes sœurs qui me disaient « Oui, tu te rends compte ce que t'as fait à papa, il a des cheveux blancs, il en peut plus, il a vachement vieilli, à la maison, il a oublié le frein à main tellement il était perturbé à cause de toi, et la voiture, elle est allée je sais pas où, elle a tapé une autre voiture. À la maison, il y a les tuyaux qui ont pété, et il y a eu une inondation, il était comme un fou, papa, je l'ai pas reconnu tellement il était comme un fou. » Le tuyau, il a pété, c'est pas à cause de moi. Non, mais le frein à main, il l'a oublié, il était peut-être préoccupé, je suis sa fille quand même. Il me voit pas depuis des mois, c'est normal. Enfin, ça me rassure. Mais non, mais c'était pour me faire culpabiliser. T'es la mauvaise. Regarde papa comme il a des cheveux blancs. Bah, je sais pas, en même temps, il a peut-être vieilli aussi, hein. Il a pris de l'âge. Mais tout ça, mais j'en rigole maintenant. Mais sur le coup, j'en pleurais. J'en rigole maintenant parce que j'ai pris énormément de recul, j'ai fait énormément de travail sur moi, mais j'en pleurais. Je disais, mais te rends compte, papa, maman, je les ai foutus dans la peine, c'est pas bien ce que j'ai fait pour ma gueule, tout ça. Et excusez-moi.
C'est pas grave.
Hein.
On est toujours avec CR qui nous raconte son parcours et du coup on voulait juste revenir sur les conséquences que tout ça avait pu avoir sur la famille, sur vos relations et l'environnement familial.
Oui, ça a été après une suite un peu difficile parce que mon père, bien sûr, avait posé un peu des ultimatums à mes sœurs en disant ben, vous lui parlez plus, hein, c'est la mauvaise, elle a décidé de passer outre mes volontés, donc personne ne lui parle. Elles ont très très bien respecté ce choix-là. Donc ben, voilà, tu te retrouves seule en fait, toi et ton copain. À l'époque, donc j'étais étudiante, donc j'ai pas de boulot, lui non plus, parce qu'il connaissait rien en France, il n'avait pas de possibilité de travailler non plus. Donc moi, bah, bien sûr déprimée, parce que du jour au lendemain, avec une famille, des sœurs, des gendres, des enfants, plein de monde, et du jour au lendemain, ouais, tu te retrouves un peu toute seule, et en plus en étant mauvaise. On a vécu du coup pendant 8 mois dans le foyer social et j'ai bossé les week-ends en fait en tant que remplaçante aide-soignante et là c'était pas un mensonge pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Ce qui a engendré au niveau de notre couple, parfois les choix que tu prends ont des conséquences en fait au niveau de notre rapport parce que lui il culpabilisait de me voir comme ça. Et de se dire que pour lui, bah, j'avais dit non à plein de choses. Et du coup, il essayait d'être mon père, ma sœur, ma mère, mon machin. Alors que je lui demandais pas ça, je lui demandais juste de me soutenir et d'être là pour moi. Donc du coup, lui, il était pas bien aussi. Et parfois, la situation s'inversait où c'était moi qui essayait de lui dire « mais t'inquiète pas ». C'était mon choix, de toute façon, c'est ce que je voulais, donc il y a pas à discuter de ça. Sachant que pour moi, il y avait deux voies possibles. Soit je disais OK à mes parents et je partais sur un modèle, bah voilà, il me choisit mon mari. Et puis en plus, en ayant eu une expérience, j'aurais eu plus tard le regret de me dire je ne me suis pas lancée. Sachant qu'au bout d'un moment, mon père, il serait mort. Et je me dirais, mais j'ai fait tout ça, mais je suis passée à côté de quelque chose dans ma vie. Soit j'allais aller au bout de ce que j'avais envie, mais j'allais combattre ou me retrouver seule par moment, ou me disputer avec mon copain et me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Sachant que tous les couples subissent des difficultés, sans parler d'avoir fait des concessions, pas de concessions. Quand on prend du recul, on se dit que voilà, mais sur le coup, il y avait des moments où on pouvait se disputer et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais regarde, mon père m'avait dit que. Mais après, non, tu reviens tout de suite à te dire, non, c'est pas ça. Dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas et c'est pas parce que t'as pris cette décision que ça va pas. C'est juste parce que t'es un couple, tu te connais, tu cherches tes limites, tu cherches à te connaître et forcément. Il y a des points sur lesquels on va être en désaccord. Donc, sachant que l'amour était toujours là, on finissait toujours par se rabiboucher, par se reparler, par suivre une vie normale, j'ai envie de dire. J'ai essayé une tentative quelques années après, en fait, j'étais enceinte et je suis allée voir mes parents. Toute seule. J'ai dit à mon copain, j'ai dit non, tu ne viendras pas, je vais y aller toute seule, je vais les affronter et je vais leur dire que voilà, tout va bien dans ma vie. Donc je suis arrivée, ils m'ont pris dans leurs bras, ils se sont effondrés, tu te rends compte que tu nous as fait subir, c'est pas bien ce que tu as fait, bien sûr plein de reproches. Je suis retournée chez eux la fois d'après, tout ça, et puis ils ont commencé à me refaire des reproches. Toi, t'es qu'une machin, toi, t'es qu'une nana, je vais même pas dire les mots parce que c'est nul. À continuer à me faire des reproches jusqu'au jour où je les ai plus supportés, en fait. Je suis allée, du coup, ma fille, elle avait 8 mois. Bien sûr, quand ma fille est née, bien sûr, on m'a posé aucune question sur ma fille, de comment elle était, de comment elle s'appelait. Et donc, à 8 mois, je vais avec mon mari, ma fille, chez mes parents. T'as quand même besoin des autres, hein, pour vivre. Et ma mère commence à me dire oui, t'es pas. Parce que ce qui se passe avant, en fait, c'est que quand j'ai accouché et que j'ai eu ma fille, on ne m'appelait pas, on ne cherchait pas à prendre de mes nouvelles, à demander comment allait ma fille, comment j'allais moi, sachant que. Être mère sans avoir une mère, c'est super dur. Je crois que c'est un des trucs qui a été les plus difficiles. J'ai fait un mariage sans avoir eu ma famille. Ça m'a pas pesé, mais avoir été mère sans avoir ma mère, ça a été super difficile. T'as ce bébé-là sur les mains, de 3,5 kg, tu te dis, elle pleure, maman, t'es pas là. Qu'est-ce que je dois faire? Elle pleure les nuits, comment ça marche? Elle est malade, qu'est-ce que toi t'aurais fait? Enfin, je sais pas. Et le nombril, il tombe quand, maman? J'avais plein de questions à lui poser. J'aurais pu les poser à ma belle-mère, sauf qu'elle parle pas turc. Elle parle que le kurde. On se voit comme ça, on peut parler, on peut se comprendre, mais c'est très difficile par téléphone d'exposer ton problème. Et donc très très difficile pour moi. Vengeance. Il y a eu la fête du Ramadan, et à la fête du Ramadan, je ne suis pas allée les voir. Et là, je reçois un coup de fil de mon père. Viens à la maison. Je dis, ouh, ça pue. Ça pue. Très bien, ça marche. Il réagit, c'est cool. Je viens d'accoucher, ils s'en foutent. Là, ça réagit, c'est bien. Donc j'y vais, à peine arrivé. Oui, t'es qu'une mauvaise. Il y a eu la fête du Ramadan, t'es pas venue. T'en as rien à foutre de tes parents, t'es sans cœur. Et là, je lui dis, putain, j'ai accouché. T'en as rien à foutre de ma fille. Mais la fête du Ramadan, c'est super important. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Et là, ils ont fusé. Les insultes, les trucs. Ouais, j'espère que ta fille, elle fera pareil que toi. Elle se barrera 16 ans de la maison. Je lui dis, mais j'espère qu'elle trouvera l'amour. Mais je lui souhaite. Donc là, après, on ne s'est plus reparlé. Et ils ont rencontré après ma fille quand elle avait 4 ans. J'ai présenté ma fille en disant, ton grand-père, ta grand-mère, je te présente ta petite fille. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des relations pas sincères parce que tu sens qu'il y a un malaise. Mais voilà, j'allais les voir. Je sais pas, j'avais besoin d'aller les voir. Voilà, je sais pas pourquoi, j'avais besoin d'aller les voir. Et en fait, non, ils ont jamais été très très proches ni de mes enfants, ni de moi, ni de mon mari. Tu sens un dénigrement quand même assez important. J'ai appris à vivre avec. Le problème, il est toujours là. J'ai appris à vivre avec. J'ai appris à me dire que non, le problème, il n'est pas chez moi. Il est chez eux. On m'a toujours dit, oui, quand tu auras des enfants, tu verras, ils seront vachement plus proches. Mais en fait, non. Non, non, non. Ça n'a rien changé aux choses. Parce qu'il y a des personnes qui évoluent, mais il y en a d'autres qui régressent. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine d'offrir une situation pareille à tes enfants, en fait. À la limite, vaut mieux qu'il n'y ait pas ces personnes-là dans ta vie, qu'elle soit là et qui te renvoie que du négatif, des choses que tu fais pas bien. Tu fais pas bien, t'es une mauvaise. Donc, ouais, j'ai appris à vivre avec et à me dire, mais de toute façon, c'était ton choix de vie. Peu importe que eux y pensent, toi, t'as fait ta vie. Même si c'était voué à l'échec, parce que je me suis quand même dit, si le jour où on se sépare, qu'est-ce qui se passe? Avant de partir de chez moi, je me suis dit cette question. Si on se sépare, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, mais non, ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Si on se sépare, c'est pas grave. Ça sera, au moins, j'aurais eu le mérite de me dire, c'était mon choix. Et il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est soit, je me dis, soit on gagne, soit on apprend. Et au moins, je me serais battue pour ma liberté à moi et à me dire, tant pis. Au moins, t'as pas subi le choix de quelqu'un d'autre. Et puis, mon père aurait peut-être choisi un mari pour moi. Peut-être que je me serais divorcée aussi. C'est pas grave. J'ai pensé au pire. Au pire. Et voilà, aujourd'hui, les relations sont très focus. On fait comme si de rien n'était. Je viens d'une famille où on est beaucoup dans le non-dit, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, là, vaut mieux qu'il y ait des non-dits, hein, qui parlent pas trop. Et moi, je fais comme si je les appréciais, hein, voilà. En tout cas, je ne vais pas chez eux sans mon conjoint, parce qu'il y a un moment, elle m'a dit, viens toi, mais ton mari, il n'est pas obligé de venir. Je lui dis, mais moi ou mon mari, c'est pareil. Donc si tu m'acceptes pas, tu n'acceptes pas lui, tu n'acceptes pas moi, donc je serai pas là, par principe. Donc je sais pas, je pense qu'il faut aller vraiment au bout des choses, et se dire que c'est pas la fin du monde. Malgré les menaces, les machins, le monde il va s'effondrer, oui, les chantages affectifs, non. C'est ta vie et c'est toi qui la prends en main. Et pas se dire, ben, je vais la faire en fonction des désirs de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Pas que pour moi. Pas par rapport au fait que t'as un père autoritaire, pas autoritaire. Ça peut être valable par rapport à... Là, c'est par rapport au fait qu'il est d'une origine différente, mais ça peut être par rapport à ta sexualité. Ça peut être par rapport à plein d'autres choses. Un choix de métier, par exemple. Ça peut être... Il faut aller au bout de ce qu'on nous on a envie, même si on se plante, c'est pas grave. Voilà.
Ça c'est de la conclusion. Non mais moi j'aurais peut-être une question en plus par rapport plutôt au présent.
Oui.
Parce que tu dis qu'aujourd'hui vous avez des rapports assez focus qui sont liés au fait que finalement tu sens que ta situation, ta vie est pas acceptée finalement et qu'on fait comme si. Voilà. Mais pour tes enfants, aujourd'hui, ils posent des questions, ils s'interrogent, mais t'es pas obligé de me répondre, mais c'est juste, voilà.
Bien sûr que par moment, par exemple, là, dernièrement, il y a une copine à ma fille qui dit « Oui, alors à Noël, j'ai ma tati de je sais pas où qui va venir, je suis super contente. » Et ma fille, bien sûr, elle m'en parle. Et elle me dit « Et maman, nous, on n'a pas de tati, tout ça. » Je lui dis « Bah tu sais, Denis, chacun a sa vie. » Elle, elle n'a pas eu de soucis avec sa tati. Moi, j'en ai eu. Mais c'est pas grave. Tu vois, on est tous les quatre. Et puis, bah, si tu as envie d'inviter des copines, bah, on invitera des copines. Il faut pas se rentrer dans des cadres où se dire, bah, tu vois, tel truc, on va le faire avec telle personne. Tu le feras avec les personnes que tu as choisies, que tu as du plaisir à passer du temps avec eux. Et c'est ça l'essentiel. Et je le prends à la légère en lui disant, non, mais tati ou pas tati? Après, nous, on fait notre vie. Moi, je préfère avoir quelqu'un à table qui va pas passer sa soirée à me faire des reproches que... Enfin, je préfère être toute seule que passer la soirée avec quelqu'un qui est à table et qui va me faire des reproches. Il y a 10 ans, alors t'as fait ci, parce que maintenant, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Il y a 10 ans, tu nous as trahis, t'es parti, tu nous as foutu la honte. Ouais, mais c'est bon, ça fait 10 ans, quoi. Elle est périmée, ton affaire. Elle est périmée, ton affaire. On passe à autre chose, quoi. Et parce qu'on, après avoir reparlé à mes sœurs, parce que bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais on a continué à me faire des reproches. Mais j'ai dit, mais t'as pas honte? J'ai une fille à côté de toi qui a 9 ans. Tu oses me dire, t'es partie de la maison. Allô, quoi? Comme on dit. Vraiment, c'est impressionnant. Et comme ça, j'avais claqué la porte à ma sœur en me barrant de la maison, quoi. Je dis, mais c'est bon, je veux plus te voir, quoi. Au bout de 10 ans, tu répètes encore les mêmes choses. T'es en mode répit, là. Passe à autre chose. Donc, oui, bien sûr que j'ai des questionnements comme ça. D'autant plus que la famille de mon mari est pas ici. Donc, voilà, on va dire qu'on est tout seul, à part nos amis, que j'ai choisis. et voilà, après, ils le comprennent. Ils l'entendent. Moi, je leur dis tout. Ils savent tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait une période où j'avais pas tendance à raconter ces choses-là, mais même à mon fils de 5 ans, je lui explique. Ma fille et mon fils vivent dans une maison où il y a un Kurde et il y a une Turque qui s'aiment. Quoi de plus simple? Et ma fille, je pense que ça lui a apporté un plus dans la mesure où je lui parle énormément de la différence des gens, que les choix des gens, quel que soit leur choix, c'est leur vie. Et que t'as pas à juger. T'as pas à dire, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, toi t'es de telle origine, toi t'es comme ci. C'est leur choix. Et elle a grandi comme ça, et ça lui a inculqué des valeurs. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de côtés positifs des choses. Et aujourd'hui encore, quand elle a des trucs à l'école, elle vient me les raconter, et on en parle, on en discute. Et s'il y a un truc sur lequel j'aimerais vraiment appuyer, ayez un dialogue avec vos enfants. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est rare que ça arrive, mais même si vos enfants ont des choses qui vous dérangent ou une façon de penser qui vous contrarie, mais c'est votre enfant, et elle est bien comme ça, elle est bien comme ça. ça lui va, elle est heureuse. Si vous prenez en compte uniquement le bonheur de votre enfant, quel que soit le choix, eh ben c'est bon, ça passe, elle est heureuse. Je pense que c'est le truc à retenir. Pour moi, c'est le truc à retenir. Et le dialogue fait que tu feras pas de trucs en cachette. Ça, c'est un truc qui... Moi, j'ai fait des trucs en cachette. J'hallucine. Et moi, je me dis, mais en Italie, il me serait arrivé quoi que ce soit. À Genève, là, à 10h du soir, à 11h du soir, il me serait arrivé quoi que ce soit. Je pense pas que j'aurais appelé mes parents. Alors que valait mieux qu'ils sachent où j'étais. Là, ils auraient eu une surveillance rapprochée. En fait, plus tu essayes de rapprocher, plus tu t'éloignes, parce que tu caches.
Ram Ravi.
On peut aussi parler d'un autre pan de ta vie ou de votre parcours à toi et à ton conjoint. Il était donc en Italie, réfugié politique. Tu étais en France et vous vous êtes marié, je crois. Est-ce que l'administration a été des plus sympathiques et des plus gentilles, j'imagine, bien sûr, à ce moment-là, avec beaucoup d'ironie, hein, vous aurez compris.
Très, très, très sympathique. Oui. Sincèrement, tellement sympathique, les gens de la mairie, là, j'avais envie de les embrasser. On dépose du coup un parce qu'il fallait accélérer les choses, hein, parce qu'il fallait aussi qu'ils travaillent et qu'on régularise notre situation. Donc on dépose un dossier à la mairie en disant qu'on souhaite se marier. On récupère un dossier de mariage et donc pendant la constitution du dossier, donc c'était à la mairie de Vénissieux, il regarde comme ça les papiers. Je me rappelle très bien du type qui était là et il dit mais c'est un mariage blanc, madame. Je dis c'est quoi un mariage blanc? Il me dit il est réfugié politique, il devrait même pas être là. On va l'envoyer en Turquie. De toute façon, il a rien à faire là. Puis de toute façon, il a même pas le droit d'être en France. Alors que vraiment rien à voir. Hein. Il avait librement le droit de circuler, de pas de travailler effectivement, mais pas voilà. Donc il y a une différence d'âge entre nous de 6 ans. Donc moi, nationalité française, et lui réfugié politique. Ils nous ont dit que ça prêtait à confusion, que c'était un mariage blanc et qu'il fallait faire une enquête policière. Donc, t'imagines le contexte déjà. Hein, moi pas bien, lui pas bien, moi mauvaise, lui mauvais. Et puis un beau jour, donc la police qui m'appelle. Oui, madame machin, enfin madame, mademoiselle, vous avez rendez-vous tel jour, telle heure, pour un rendez-vous avec la police. Oh, mode panique, je me rappelle, j'étais au Paris d'Azador avec mon copain, hein. Et là, je lui dis, mais j'ai cours ce jour-là, comment? Oui, ben, vous allez venir parce que ça vous enlèvera une épine du pied. D'accord. J'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Bref, on y va. Enquête policière. Donc, ils ont interrogé mon mari, à part, et moi, à part, pour savoir si c'était vraiment un mariage d'amour, savoir si tout ce que je disais et que lui disait concordait. Alors, vous vous êtes rencontrés à quelle date? À quelle date il vous a proposé de se marier? Quand est-ce qu'il vous a dit « je t'aime » je ne sais pas s'il m'a demandé si on avait couché ensemble à quelle date, mais probablement. Toute ta vie privée devant un flic, comme ça. Voir si ça concordait. C'est pour voir si ça concordait et si ce n'était pas un mariage blanc.
Mais, je te coupe, mais pourquoi, pourquoi la police était informée de votre demande de mariage? Enfin, c'est quelqu'un les a informés. Enfin, il y a une dénonciation, un truc qu'on sait faire en France, ça c'est bien.
Bah, de par la mairie, vu qu'ils ont estimé que le dossier était suspect, ils ont transmis le dossier à la police. Donc moi, arrivé à la police, je dis mais monsieur, je comprends pas. En fait, j'ai déposé un dossier de mariage, je me retrouve chez les flics. J'ai du mal à comprendre. C'est la première fois que j'étais au commissariat de police. Et là, il me dit oui, il faut qu'on vérifie si tout se concorde, machin truc. Donc, interprète pour mon mari, bien évidemment. Et donc, bien sûr, ils ont fait leur enquête, genre. Je sais pas ce qu'ils sont allés vérifier. Ils ont fait leur enquête. Et quelques semaines après, venez, vous pourrez décider de votre date de mariage, prenez rendez-vous, tout ça. Donc, tu t'imagines quand même, entre mes parents qui étaient contre nous, l'État qui était contre nous, et ça je l'ai dit hein, au commissariat, j'ai du mal à comprendre. On est dans un contexte où moi, j'ai fui l'autorité parentale et je me retrouve avec l'autorité de l'État. Qu'est-ce que j'ai fait? Expliquez-moi, j'ai l'impression d'avoir commis un crime, je me retrouve chez vous. Donc ils ont fait leur enquête, hein, bien évidemment. Ils sont tombés sur rien du tout, parce que je pense que tout concordait, hein, tout était vrai. Voilà. Ils pensaient qu'il était là, mon mari, pour avoir les papiers. Donc la même chose que mon père. Mm-hmm. Donc je pensais qu'avec mon père qui était CON, hein, mais en fait... non.
Donc voilà, on s'est mariés et on a eu d'autres actions bien sympathiques qui sont des choses que rencontrent beaucoup d'autres personnes en fait. Hein, mon mari est très typé et un jour il vient me chercher au travail. On n'avait qu'une voiture à l'époque, moi enceinte et il oublie de mettre un clignotant et là les CRS étaient en face. Il l'arrête, contrôle de papier, et là mon mari présente c'était son récépissé. Mm-hmm. Son récépissé, et là ils lui disent: monsieur, vos papiers sont faux. Et là il dit: mais c'est la préfecture qui me les a donnés. Ils lui mettent les menottes. Et là, entre temps, donc mon mari m'avait appelé, moi j'étais venue le rejoindre. Il me dit: mais on l'emmène à Marius Berlier. Je dis: mais c'est quoi Marius Berlier? Il me dit: bah, commissariat de police du 8e ou je sais pas quoi. Très bien. Je savais même pas où c'était. Et menotté, tout ça, il l'emmène au commissariat de police. Et là, entre-temps, j'ai un copain du boulot qui m'emmène donc au commissariat de police. Et là, il le relâche. Bah, c'est bon, on a fait les vérifications. Menotté, tout ça.
Avec, j'imagine, bien évidemment, un mot d'excuse de tous ces services de police, etc. Non, on rigole. Hein. Enfin, c'est terrible.
Hein. Oui. Ils étaient à trois pieds sous terre. On dit ça comme ça. Hein. Non, mais pas du tout. Non. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. En gros, vous pouvez disposer, quoi. Mmh. Ouais. Impressionnant. Et là, alors justement, quand je croise le CRS qui emmenait mon mari, je lui dis: mais monsieur, je suis enceinte, comment je fais pour arriver jusqu'à Marius Berlier, c'est ça? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il me dit: mais ça se voit même pas, votre grossesse.
Con jusqu'au bout.
Voilà, c'est ça. Tu vas aller voir. Non, mais voilà, il a eu plein d'interpellations comme ça, hein, où il l'emmenait directement au poste de police, quoi. Ah, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Dès qu'il voyait quelqu'un de typé, il l'emmenait, en fait. Donc, ouais, ça, assez sympathique. On s'est confrontés aux parents, aux autorités, aux forces de l'ordre.
La totale.
Mais on est toujours là. C'est bizarre, hein. On est toujours là, vaillant.
Enfin, ce qui est toujours assez dingue, je trouve, c'est quand on a juste envie d'être ce qu'on a envie d'être, de vivre ce qu'on a envie de vivre, sans aucune haine ou violence à revendre ou autre, ben en fait, tu te retrouves quand même souvent assez isolé, et dans une lutte quand même assez constante, quoi. Enfin, c'est après l'autorité, comme tu disais, du père, on passe à l'autorité de l'État. Et effectivement, enfin, c'est pas forcément toujours... sympa de se retrouver seul, mais c'est quand même quelque chose qui est assez marquant, je trouve, dans les gens qui sont toujours en quête d'une certaine cohérence et liberté selon ce qu'ils ont envie, ils se retrouvent quand même souvent isolés. C'est vrai. Enfin, ouais.
Tu te dis que ce que tu veux faire, tu réussiras à le faire, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit plat et monotone. Mmh. Tu auras des hauts, tu auras des bas, il faut s'accrocher, mais au moins après, tu as la fierté de l'avoir fait. Ça, c'est un truc, c'est pas grave, tu vas galérer. Ça, il faut que tu saches que tu vas galérer. Ça va pas être tout beau, tout rose, mais au moins, tu l'auras fait. Tant pis.
Tant mieux, plutôt.
Tant pis pour autorité parentale, autorité de l'État.
Tant pis pour eux.
Tant pis pour eux. Fuck.
Est-ce que ça t'arrive de penser à la vie que t'aurais pu avoir? Si, effectivement, tu t'étais... Enfin, peut-être rebellée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais oui. Si tu ne t'étais pas, oui, effectivement, opposée... est-ce que ça t'arrive d'y penser?
Mais carrément. C'est ça qui m'a aidée, d'ailleurs, à prendre ma décision, parce que je suis quelqu'un d'assez... je ne suis pas quelqu'un de fataliste. Je n'aime pas vivre ma vie en fonction des décisions des autres. Et même si la personne que aurait choisi mon père aurait été super... Je pense que je ne l'aurais pas accepté facilement. Je pense que ça serait parti en clash, parce que ça serait ce que représente la personne, et non pas, malheureusement pour la personne, parce que je vais te dire qu'il y a un nombre de mariages qui se passent comme ça, même des hommes qui acceptent ce genre de mariage, et après qui ont une vie conjugale hyper compliquée, parce qu'ils n'arrivent pas, mais rien que du fait qu'on leur a imposé un truc en fait, qu'ils n'arrivent pas à avoir une vie normale parce que juste parce qu'on leur a imposé, alors que tu dis mais cette fille elle est super bien, mais comment ça se fait que ça se passe mal, regarde elle est géniale, mais il l'a pas voulu, il ne l'a pas voulu.
Ouais, ils ne se sont pas voulus, quoi.
Enfin, ils ne se sont pas voulus.
C'est ça qui est terrible,
oui,
quoi.
C'est ça.
On peut pas. Enfin, l'amour, c'est pas quelque chose qui se décide, quoi. Enfin, c'est après, on rentre dans une forme de pensée philosophique, mais enfin, c'est quelque chose qui fait que deux personnes vont avoir un truc qui va fonctionner ensemble. Et que ça, c'est. Enfin, on peut pas par autorité décider que des gens vont s'aimer. Enfin, c'est la pire des choses pour que des gens, soient malheureux, quoi. Enfin, c'est.
Enfin, bref. Et c'est valable aussi pour le travail, par exemple. Je me rappelle aussi quand j'étais à l'école d'infirmière d'un collègue en fait qui était fils d'un infirmier qui travaillait dans le SAMU, qui voulait absolument que son fils fasse ce travail. Il a redoublé. Il avait plein de capacités, ce type, hein, vraiment plein de capacités. Tu te demandais pourquoi il redoublait, vraiment. Mais il n'avait pas envie de faire infirmier. Il le disait, mais il le disait pas à son père. Où il prenait pas les mesures ou les décisions qu'il fallait. Il a retapé son année et arrivé au diplôme, après avoir fait 4 ans, il n'est pas allé à la session pour passer le diplôme. Tu dis, t'as perdu tout ça, 3 ans, 4 ans, tout ça pour faire plaisir. Et heureusement, à la fin, il s'est dit, stop, quoi. Ça aurait été un mauvais infirmier, tu vois ce que je veux dire. Il fallait pas qu'il continue. Il a perdu 4 ans de sa vie, et puis bah, ça pousse à faire quoi ? À avoir des regrets ? À se dire, merde, j'aurais dû ?
Eh bien, merci CR pour cet entretien. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Juste quelque chose que tu aurais juste envie de dire, même si ça n'a rien à voir avec ta vie, mais un truc que tu as envie de passer comme ça avant qu'on se quitte ?
Eh bien, s'il y a un truc, je pense, qui me touche, c'est qu'on a 70-80 ans d'expérience de vie, à peu près, hein, grosso modo, d'espérance de vie. Pendant ces 70-80 ans, bah, faites ce qui vous plaît, quoi. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous fait envie, ce qu'il y a dans votre trip, quoi, et n'organisez pas tout en fonction des autres.
Eh ben, merci.
Merci.
Merci, merci.
Merci, where you find trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. You're somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to. Why, oh why can't I ooh, 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 yeah.
Voilà, la causerie qui prend fin. Je ne m'entends pas beaucoup. Que se passe-t-il ? Bon, j'espère que vous m'entendez. En tout cas, c'est la fin de cette causerie qui était un entretien, ou l'appelez comme vous voulez, en tout cas avec CR, qui nous parlait de sa vie. Parce que c'est important, les parcours individuels. Et voilà, la playlist qui a été choisie totalement par CR, vous la retrouverez sur le blog de la causerie. Si vous voulez réagir suite à cette info, enfin cette interview, pareil, vous pouvez aller soit sur le blog de la causerie qui est toujours à blogs.radiocanu.org/lacauserie ou par mail à lacauseriecanu@gmail.com. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Georges, la semaine prochaine, avec une émission où on va parler de la mort des étoiles. Après avoir parlé de la naissance, c'est la vie, on va parler de leur mort. Bon, on vous laisse sur le son des bandes continues célèbres de Radio Canu. On vous souhaite une bonne nuit. On salue aussi, encore une fois, CR, on la remercie. Et on salue aussi toutes les causeuses qui participent à la causerie. Voilà, bonne nuit, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao et bon courage. Ciao.
Donne mal ta guérison, ces malades-là sont sanctifiés, au ciel il y a plus